Bienvenue dans les Clés du Sens, une chronique consacrée à la sémiologie, la science des symboles. Je suis Léa, et ensemble, nous allons explorer un territoire fascinant, celui des signes et des symboles qui nous entourent au quotidien. Elle nous révèle que chaque mot, chaque nom porte en lui une histoire extraordinaire. Et quoi de plus révélateur de nos représentations collectives que les noms que nous donnons aux animaux qui peuplent notre imaginaire? Cette année, je vous propose de plonger dans l'univers captivant de la symbolique animale à travers les noms de mammifères, en nous appuyant sur un ouvrage remarquable d'Henriette Walter et de Pierre Avenas, L'étonnante histoire des noms de mammifères. Car derrière chaque nom se cache bien plus qu'une simple désignation. Nos peurs ancestrales, nos admirations secrètes et nos mythes fondateurs s'y trouvent. Ces noms sont de véritables miroirs de nos sociétés et nous racontent comment nos ancêtres percevaient le monde animal, quelles vertus ou quels dangers ils y projetaient et comment ces représentations continuent de façonner notre langage et notre pensée contemporaine.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une chronique un peu particulière. Savez-vous que la vache, le bœuf et la lettre A de notre alphabet ont quelque chose en commun, non? Eh bien, accrochez-vous, aujourd'hui nous allons remonter plusieurs millénaires en arrière pour percer ce mystère. Commençons par une énigme linguistique. Comment se fait-il que le mot « bœuf » et le mot anglais « cow », qui veut dire « vache », proviennent de la même racine? Ça paraît incroyable, et pourtant, c'est bien le cas. Tout part d'une racine indo-européenne, « gwu », qui signifiait « bovin », sans distinction de sexe. De cette base-là, sont nés d'un côté le grec « bous » et le latin « bos », « bovis », qui désignait indifféremment le bœuf ou la vache, et de l'autre l'allemand « kuh » et l'anglais « cow », qui ne désigne que la vache. Vous vous demandez d'ailleurs comment on passe de « gwu » à des formes aussi différentes, c'est là que la phonétique entre en jeu, et le son « gw » a évolué différemment selon les régions. Dans les langues germaniques, il est devenu un « k », d'où « kuh » et « cow », et dans les langues grecques et latines, il a évolué vers un « b », d'où « bus » et « bos ». En français, nous avons hérité du latin avec notre mot « bœuf ». Bon, mais attendez, ce n'est pas fini parce qu'il reste un mystère. Pourquoi dans les langues germaniques, le mot désigne-t-il uniquement la vache et pas le bovin en général? Eh bien, la réponse se trouve dans la composition des troupeaux. Les vaches, qui produisent du lait, étaient bien plus nombreuses que les mâles, et elles étaient au centre de l'économie agricole. C'est donc tout naturellement que le mot a fini par désigner spécifiquement la femelle. Pour le bœuf, les langues germaniques ont utilisé une autre racine indo-européenne, uxin, qui a donné osh, et en allemand ox, et en anglais ox. D'ailleurs, cette importance du bœuf, elle se retrouve dans les toponymes. Et oui, c'est ma partie préférée. Vous dire à quel point dans notre imaginaire et dans notre réalité immédiate se trouvent des références aux animaux. Oxford, par exemple, vient d'Oxenford, littéralement le guet des bœufs. En Bavière aussi, on trouve Oschenfurt, encore un guet des bœufs. Et les anciens germains utilisaient les animaux comme référence, en fait, pour indiquer la profondeur d'un guet. C'est malin, non? Bon, maintenant, intéressons-nous un petit peu aux langues slaves, qui ont pris un tout autre chemin. Elles n'ont pas vraiment retenu ce nom indo-européen, gwu, parce que les bovins faisaient un peu l'objet d'un tabou, c'est très intéressant symboliquement, un tabou lié à une vénération particulière, un peu comme la sacralisation de la vache qui existe encore aujourd'hui en Inde.
Vous écoutez Les Clés du Sens avec Léa sur Radio-FM+.
Au lieu d'utiliser le nom commun du bovin, eh bien les Slaves l'ont appelé par une caractéristique, ses cornes. Le nom de la vache, dans la plupart des langues slaves, vient d'une racine signifiant « corne ». Et c'est le même phénomène que pour l'ours. Certaines langues slaves ont évité le nom indo-européen de l'ours et l'appellent « mangeur de miel ». De même, elles ont évité celui de la vache et l'appellent « la cornue ». Bon, et ces racines anciennes, elles ont laissé des traces étonnantes dans notre vocabulaire. Prenons le mot « bucolique ». Sous ce joli adjectif qui évoque sans doute pour vous la campagne paisible, se cache en fait le latin « bos ». Le bœuf. Parce qu'à l'origine, bucolicus s'appliquait à tout ce qui concernait les bovins et leurs gardiens. Et je vous parlais d'alphabet tout à l'heure, vous connaissez peut-être ce mot boustrophédon. Ça vient du grec bous, le bœuf, et strophein, tourné. En fait, c'est une manière d'écrire alternativement de gauche à droite, puis de droite à gauche, exactement comme le mouvement des bœufs qui labourent en changeant de sens au bout de chaque sillon. Il y a même septentrion, le nord. Ce mot viendrait de septem triones, littéralement, sept bœufs de labour, pour désigner les sept étoiles de la grande ourse. Mais bon, je crois que la plus belle histoire, c'est celle du vaccin. Pour désigner la femelle, le latin hésitait entre bos femina, bovin femelle, et vaxa, une forme un peu familière utilisée par les bouviers. Et c'est finalement celle-là qui l'a emporté. De là est né l'adjectif vaccinus, qui qualifie tout ce qui se rapporte à la vache. Et c'est tout naturellement qu'en latin médical, on a nommé la variole de la vache variola vaccina, devenue vaccine en français. Et c'est à partir de vaccine qu'on a formé le mot vaccin. Maintenant, quand nous parlerons de vaccination, nous évoquons sans le savoir la vache et ses bienfaits pour la médecine moderne. Bon, et les taureaux, sans doute les plus majestueux de cette catégorie d'animaux, ils ont toujours fasciné une partie du monde. Et ils ont surtout fasciné les Crétois. Ça commence avec l'enlèvement de la nymphe Europe par Zeus, qui s'est transformé en doux taureau blanc pour la séduire. Il a emmené Europe en Crète, et de leur union est né Minos, le roi légendaire. Minos a épousé Pasiphaé, qui fut à son tour séduite par un taureau blanc, et de cette union naîtra d'ailleurs un monstre, mi-homme, mi-taureau, le Minotaure. Son nom rappelle à la fois le taureau légendaire et le nom du roi Minos. C'est une histoire qui témoigne vraiment de la place centrale du taureau dans la mythologie méditerranéenne. Bon, je vous ai parlé de la lettre A, mais je ne vous ai rien dit. Alors terminons par cette lettre. Dans l'alphabet phénicien, la première lettre avait pris la forme épurée d'une tête de taureau, les cornes dessinées dans la partie supérieure. On reconnaît parfaitement cette tête de bovin avec ses cornes dans les inscriptions anciennes. Cette lettre, elle a ensuite été très simplifiée dans des écrits ultérieurs, puis réorientée vers le bas en grec primitif, avant d'aboutir à notre A actuel. Parce que les cornes se trouvent désormais dans la partie inférieure de la lettre. Regardez bien, les deux traits obliques qui montent, c'est ce qui reste des cornes du taureau. Maintenant, à chaque fois que vous écrirez ou que vous lirez un A, vous aurez conscience que vous tracez ou que vous voyez la silhouette millénaire d'une tête de taureau. Notre alphabet commence donc par un hommage à cet animal qui a nourri, fasciné et accompagné l'humanité depuis la nuit des temps. Alors de la racine indo-européenne à notre lettre A, du vaccin à Oxford, des tabous slaves au mythe crétois, eh bien la vache et le bœuf ont labouré bien plus que nos chants. Ils ont fasciné nos langues, nos écritures et nos imaginaires. Alors merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle chronique.
Ainsi, un seul mot nous raconte des millénaires d'histoire humaine, nos peurs, nos fascinations, nos projections. La prochaine fois, nous explorerons un autre animal et ses secrets linguistiques. En attendant, restez à l'écoute des mots qui vous entourent, ils ont tous une histoire à raconter. Ano bola, pono bola, benetinha letan.